L'organisation Portes Ouvertes qui travaille auprès des chrétiens qui sont dans la persécution dans le monde entier a l'habitude de tenir un séminaire intitulé « Marcher dans la tempête » parce que ces chrétiens-là connaissent des grandes souffrances. On voit ce qui se passe au Nigeria où dans la partie musulmane, les églises sont brûlées, les chrétiens sont tués. En Chine, c'est les mêmes difficultés. En Corée du Nord, n'en parlons pas. Dès que tu es connu chrétien, tu es emprisonné pour des travaux forcés. Et l'organisation Portes Ouvertes a l'habitude de faire un séminaire pour ces gens-là, intitulé tenir dans la tempête, parce qu'ils ont besoin d'être construits dans la parole de Dieu pour vivre dans la difficulté, dans la persécution et je dirais dans l'adversité. Mais la grande erreur, c'est de croire qu'il y aurait une vie pour des chrétiens de ce pays-là et une autre vie pour nous. C'est faux, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est la même vie pour tous. Mais les manifestations ne sont peut-être pas identiques, mais c'est la même réalité. Nous devons nous aussi apprendre à marcher dans l'adversité, à marcher dans la difficulté. Si nous n'apprenons pas cela, nous ne pouvons pas servir Jésus réellement. Le Seigneur Jésus a dit une phrase grande. Il a dit: celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Il n'a pas dit les chrétiens de Chine ou du Nigeria. Il a dit tout celui qui veut me suivre devra prendre sa croix. Donc la croix, c'est l'instrument de mort. Devra prendre sa croix et me suivre. Donc il sera confronté d'une certaine manière à la mort, à la difficulté. Et il devra me suivre dans ces conditions-là. Alors, croire qu'on pourrait suivre le Seigneur sans difficulté, c'est faux. Ce n'est pas biblique. Le Seigneur le dit clairement. Celui qui veut me suivre doit prendre sa croix et me suivre. C'est vrai que Portes Ouvertes fait des séminaires, tenir dans la tempête, dans ces milieux-là coréens ou chinois, mais c'est un séminaire qui est nécessaire pour nous ici, avec notre contexte. Bien-aimé, si tu es vraiment de Dieu et que tu marches avec des gens qui n'ont pas compris cela, tu auras toujours des difficultés. Parce que quand viendront les persécutions, les difficultés, ces gens-là, soit ils te trahiront, soit ils te quitteront, soit ils te calomnieront. Parce qu'ils ne supportent pas, ils ne vont pas supporter le genre de christianisme que toi tu voudrais vivre dans la vérité. C'est pourquoi, en tant que chrétien, tu dois faire en sorte que les gens qui s'associent avec toi d'une manière ou d'une autre acceptent la marche par la foi, acceptent la marche en portant la croix. Parce que si tu ne fais pas cela, si tu ne t'assures pas de cela, tu seras confronté à des grosses difficultés. À des grosses difficultés. On se souvient de ce qui est arrivé à Jésus. Lorsque la pression est venue, beaucoup l'ont abandonné. Lorsqu'il a dit que celui qui ne me mange pas n'ira pas au ciel, beaucoup l'ont abandonné. Donc, lorsque la situation est devenue difficile, beaucoup l'ont abandonné. Et lorsque la situation est devenue difficile dans le désert, le peuple a abandonné Moïse. Il a dit à Moïse, nous voulons retourner en Égypte. C'est pour nous dire ceci, c'est que assurons-nous que les gens qui se disent chrétiens et qui marchent avec nous comprennent que notre vie ici sur terre, c'est une vie dans l'adversité. Dans l'adversité. Ça ne veut pas dire que nous ne pourrions pas. Au contraire, le Seigneur veut montrer sa puissance en nous aidant à marcher dans l'adversité. C'est ainsi qu'il est manifesté comme Dieu. Nous lisons Matthieu 10, à partir du verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Bien-aimé, c'est clair. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc, il y aura deux camps clairs. Ceux qui sont attachés à Jésus, réellement, et le reste. Et Jésus parle du reste en disant, vous serez haïs de tous. Tout celui qui ne sera pas vraiment attaché à Jésus, qui aimerait Jésus de tout son cœur, ben deviendra un ennemi du chrétien. Voilà ce qui est écrit. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Amen. Le Seigneur dit, ne craignez point. Vous allez vivre un temps où on va vous appeler des mauvais, des gens de Belzébul. On va vous accuser faussement. Il dit, en ce moment-là, ne cherchez pas à réagir par la chair, parce que tout ce qui est caché sera dévoilé. Donc, ayez confiance que la vérité éclatera. Et tenez ferme. Bien-aimés, ça c'est l'avertissement du Seigneur Jésus. Matthieu 10, il dit à ses disciples, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Qu'est-ce que ça veut dire? Que sur la terre, il y a beaucoup plus de loups que de brebis. Quand on dit que on prépare les haricots à la viande, ça veut dire que les haricots sont plus nombreux que la viande, que les morceaux de viande. Donc quand on dit « je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », ça veut dire que les loups sont très nombreux et que vous, vous êtes au milieu d'eux. C'est une réalité, bien-aimée, que beaucoup de chrétiens veulent ignorer pour se sentir bien. Parfois, ils se cachent sous le verset qui dit « L'amour ne soupçonne point le mal ». C'est vrai, l'amour ne soupçonne point le mal, mais la réalité, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'on nous a envoyés comme des brebis au milieu de loups. Il faut accepter ce que dit Jésus lui-même, que nous sommes des brebis au milieu de loups. Et souvent, quand un loup se manifeste comme un loup, il y a toujours des chrétiens, entre guillemets, bien pensants, pour le continuer à les qualifier de brebis alors qu'ils se sont avérés comme des loups. C'est là la difficulté du chrétien qui est dans la vérité. Parce que pendant que lui, il voit un loup, le chrétien qui est dans le compromis, il voit un chien. Et le conflit commence là. Bien-aimé. Pendant que Pilate, il est en train de comparer Jésus et Barabbas. Dans la tête de Pilate, il se dit, je vais m'en sortir là. Comme Jésus est innocent, le moyen de le libérer, c'est de leur proposer Jésus ou Barabbas. Comme Barabbas est un mauvais, le peuple va choisir Jésus. Comme ça, moi, je suis libre. J'ai été juste. Mais Pilate a sous-estimé le cœur de l'homme. Il a sous-estimé le cœur de l'homme. L'homme est mauvais. Donc, il est avec toi que quand tu sembles fort. Maintenant, quand tu sembles faible, quand la pression est sur toi, il sent que s'il s'associe à toi, il aura la même pression. Il préfère se retirer. C'est ça la masse. Il y a deux camps. Il y a les loups. Et il y a trois camps. Il y a les loups. Et il y a les véritables, les enfants de lumière, les brebis. Mais il y a aussi la masse. Cette masse-là, elle est tellement, entre guillemets, neutre qu'elle finit par être prise par les loups. Et elle-même, elle devient une sorte de masse formée de loups. Parce qu'il n'y a pas de neutre. Ou tu choisis Dieu, ou c'est le reste. Et quand on est neutre, en réalité, on finit par devenir loup. Parce qu'on va, d'une certaine manière, rejoindre le camp des loups pour combattre les brebis du Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Et Pilate se disait, tiens, je vais proposer Jésus ou Barabbas. Certainement, comme Jésus a été bon, il leur a fait du bien. Certainement, comme Jésus est droit et que Barabbas a massacré la population. Vous savez, les révolutionnaires, ce sont des gens qui se disent qu'ils combattent pour la liberté, par exemple, d'un pays, mais en même temps, au milieu de leurs frères, ils n'acceptent pas l'opposition. Les révolutionnaires, ils disent, bon, nous, on veut libérer le pays des Allemands. Maintenant, si au milieu des Français, il y a des gens qui ne les suivent pas, ils sont considérés comme des traîtres et ils sont menacés à attaquer. Donc les révolutionnaires, eux qui veulent libérer les gens, ils se transforment eux-mêmes en dictateurs parce qu'ils se disent leur cause est tellement supérieure que ça ne doit pas supporter une opposition quelconque. Et donc Barabbas faisait partie de ces révolutionnaires-là. Donc il combattait pour la liberté du peuple juif par rapport aux Romains, mais c'est des gens qui n'acceptaient aucune contradiction dans le peuple. Donc ils menaçaient aussi les gens du peuple. Et Pilate s'est dit, certainement ils vont choisir Jésus. Comme ça, moi, je suis quitte. Oh, bien-aimé, les gens ont carrément choisi Barabbas. Beaucoup de chrétiens sont surpris par les difficultés, par les trahisons et autres. Et ils ne comprennent pas, mais bien-aimé, Jésus a vécu pire que cela. Il a vécu pire que ça. Et il faut s'en habituer. Il faut s'accommoder de cela. C'est la terre. Nous sommes sur la terre des pèlerins qui marchons dans l'adversité, dans la difficulté, dans les complications. Et le Seigneur nous prévient. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Nous nous souvenons d'un autre passage dans Actes des Apôtres au chapitre 14. Chapitre 14, verset 21. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Il s'agit de Paul. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est clair, bien-aimé, tribulations, c'est des souffrances, c'est des persécutions, c'est des difficultés. Voilà, c'est par beaucoup, il ne dit même pas par une... Par certaines tribulations, il dit, c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, est-ce que ça veut dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être dans les tribulations? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que quand on est du royaume de Dieu, on a un chemin et ce chemin-là sera parsemé d'embûches. Ce n'est pas ces embûches qui nous amènent dans le royaume de Dieu, c'est Jésus qui nous amène dans le royaume de Dieu par la foi. Lorsque nous croyons, nous sommes qualifiés pour le ciel, mais cependant, étant qualifiés pour le ciel et demeurant sur terre, nous aurons à faire face à des difficultés. Et à l'issue de ces difficultés, nous parviendrons finalement au royaume de Dieu. Non pas que ces difficultés, c'est elles qui nous qualifient, pas du tout, mais tout simplement, c'est notre réalité. C'est comme un oiseau, ce n'est pas le fait qu'il vole, qu'il est un oiseau, non, il est déjà oiseau et le fait de voler ne fait que confirmer qu'il est oiseau. Nous, on est déjà sauvés, mais on nous prévient qu'étant sauvés, nous sommes des corps étrangers sur terre, nous sommes des anti-terre, nous sommes des anti-mal et la terre étant dominée par le mal, nous nous retrouvons donc dans le camp adverse. C'est comme s'il y a une guerre et que toi, on te parachute dans le camp adverse. Ce n'est pas un combat. La Bible veut nous montrer que nous ne faisons pas un combat face à face. On est dans notre armée contre l'autre armée. Donc il y a une ligne de front, comme on dit. Il n'y a pas de ligne de front. Ce que Dieu a fait, il nous a parachutés dans le camp ennemi. C'est ce qu'il veut nous dire. Alors, habituons-nous à cela. Acceptons cette façon de faire parce que c'est ainsi que Dieu a décidé les choses. Ne cherchons pas à créer un christianisme qui n'est pas celui que la Bible décrit. Paul est clair, il dit, il fortifie, il dit même qu'il fortifiait. Donc, il leur donnait de la force en leur disant, mais ce que vous vivez, c'est normal. C'est les tribulations liées au fait que nous sommes du royaume. Du moment qu'on est du royaume, les gens ne nous accepteront pas parce qu'on n'a pas la nature du monde. Dans Jean 15, parce qu'il y a tellement de passages qui en parlent, il y en a beaucoup qui en parlent. Et dans Jean 15, le Seigneur Jésus dit, ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Mais quand il dit ils m'ont haï, il parle du monde. Il ne parle pas forcément que des démons. Il parle de tous ceux qui ne partagent pas la même vision que Dieu. Ils finissent par haïr ceux qui partagent la même vision que Dieu. C'est inéluctable, c'est inévitable. On a vu Caïn et Abel. Caïn ne partageait pas la vision divine. Et il a fini par haïr Abel et le tuer. Caïn ne détestait pas forcément Abel. Mais c'est le fait que Abel a été agréé par Dieu que ça a énervé Caïn. Et il y a des gens qui, à température ambiante, ne nous détestent pas forcément. On est bons voisins. Mais le jour où ils se rendent compte que nous sommes agréés de Dieu, que nous sommes des gens de la vision divine, c'est là que commence leur énervement. C'est là que commence leur volonté de nous nuire. Parce qu'ils n'ont pas accepté, eux, la vision divine. C'est Jésus qui en parle dans Jean 15. Ils m'ont haï, donc ils n'ont pas accepté ma vision, ils ne vous accepteront pas non plus. Donc quelqu'un qui n'a pas accepté la vision divine finira par combattre ceux qui l'ont accepté. C'est la loi de la nature, c'est la loi des corps étrangers. Donc nous sommes comme des corps étrangers ici sur terre, des voyageurs, mais des corps étrangers que la terre cherche à refouler. Vous savez, quand un microbe entre dans le corps cherche à le dompter, à le détruire. Parce que c'est un corps étranger. C'est pourquoi les gens qui se font greffer, on leur donne des médicaments pour faire accepter le greffon par le corps. Donc quand on te greffe un organe, le foie ou autre chose, ou le poumon, on doit te donner des médicaments qui fassent que le corps ne combatte pas le nouvel organe. Parce que le corps le considère comme un organe étranger qu'il faut détruire, qu'il faut rejeter. Et c'est ce que nous vivons sur terre. Les terriens nous considèrent comme des êtres étrangers, des gens dangereux, des gens purs, des gens qui embêtent leur conscience, des gens qui vivent comme des fous. Ils vivent par la foi, alors qu'eux, ils vivent par le compte bancaire, ils vivent par la chair, ils vivent par la corruption, ils vivent par le mensonge, et ils n'acceptent pas qu'on ait une vie différente. Et donc, ils réagissent comme s'il y avait un corps étranger autour d'eux, et ils cherchent à nous éliminer, ils cherchent à nous détruire. C'est pourquoi le Seigneur nous a prévenus, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et dans les loups, il peut y avoir les neutres, les gens qui sont neutres, qui sont tout le temps à vouloir contester ce que la Bible dit clairement pour proposer quelque chose de démoliant, quelque chose qui, comme un édulcorant, quelque chose qui calme. Non, bien-aimé, la Bible est claire. Mais il y aura des gens qui voudront la rendre plus claire à leurs yeux et inventer des théories pour que ça colle avec l'homme, en disant que ça a été écrit il y a 2000 ans dans un contexte différent. Non, la Bible a été écrite pour l'homme et l'homme n'a pas changé, l'homme est toujours le même. L'environnement a changé, mais l'homme n'a pas changé et la Bible est valable pour l'homme. Il y a des gens qui voudront adapter en disant « Où est le mal ?» Où est le mal si on faisait ceci? Où est le mal? Ils s'inventent comme on nous a prêché vendredi. Dieu a fixé des limites dans la parole. Mais il y a des gens qui voudront dépasser ces limites en disant, mais non, on peut toujours, on peut. Et ce sont ces gens-là qui semblent être chrétiens, qui deviennent vraiment un lourd fardeau pour les vrais chrétiens. Parce que les vrais chrétiens croyaient qu'ils seraient soutenus par ce genre de chrétiens. Et quand ils voient ce que Jésus a vécu, ces gens-là de la masse, soutenir les mauvais, soutenir les pharisiens, ces chrétiens-là sont décontenancés, étonnés, mais bien-aimés. La Bible nous dit qu'il ne faut pas s'étonner. C'est normal. Lorsque quelqu'un n'est pas attaché fortement au Seigneur Jésus, il finira par te combattre. Toi qui veux t'attacher fortement au Seigneur Jésus, toi qui crois à la parole intégrale, il finira par te combattre parce qu'il va te considérer comme un fou, comme quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui croit à tout. Bien-aimés, oui, il faut croire à tout ce qui est écrit. 2 Timothée 3,16 nous le recommande. Que tout ce qui est écrit, les Écritures sont inspirées de Dieu. Il faut croire. Et même si nous devons passer pour quelqu'un qui ne réfléchit pas, il faut croire parce que Dieu est plus grand que tous. Toutes les stars meurent. Les philosophes meurent. Mais Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Il est plus grand que les scientifiques. Il est plus grand que tous. Il est digne d'être cru. Le Seigneur nous prévient qu'il y aura des difficultés. Vous connaissez le célèbre passage de Matthieu 7 où il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent auprès de vous en peau de brebis, mais au-dedans, c'est des loups, bien-aimés. » C'est le Seigneur qui le dit. « Au-dedans, c'est des loups. Gardez-vous des faux prophètes. » Il y a des faux prophètes, bien-aimés, qui viennent en peau de brebis, qui se mêlent. Et un jour, leur caractère de loup va se manifester. Mais ce qui est grave, c'est que le peuple qui est neutre, au moment où le caractère de loup se manifeste, il ne s'en rend même pas compte. Il ne s'en rend même pas compte. Quand les pharisiens ont manifesté vraiment leur caractère de loup, voulant tuer Jésus, le peuple ne s'est pas posé la question, mais pourquoi ils veulent le tuer? Qui s'est posé la question? C'est un païen, Pilate. Pilate qui est extérieur à tout ça, il dit, mais où est le mal qu'il a fait? Mais le peuple qui était concerné, qui a vécu les miracles de Jésus, qui a mangé, Jésus a multiplié les pains, le peuple, oh non, Barabbas, libère Barabbas. C'est comme un amusement, bien-aimé. Dieu, ce n'est pas de l'amusement. On doit suivre Dieu au prix de sa vie. Ces gens-là étaient conscients que dire « libérer Jésus » à ce moment-là, ça te crée des problèmes. Tu pouvais même mourir, on pouvait même te tuer. Ils ont préféré vivre. C'est pourquoi Jésus dit « celui qui cherche à sauver sa vie, la perdra. » Il y a des gens qui vont préférer ce qui permet qu'ils continuent ce qu'ils font. Et ils vont s'éloigner de ce qui va les arrêter et parfois amener à leur mort. On se souvient de parents. Les parents du jeune qui était aveugle de naissance. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit dans la parole que ces gens-là, ils étaient hyper contents que leur enfant soit guéri. Mais quand il a fallu défendre Jésus, ils se sont tués. Que dit la Bible à ce sujet? Parce qu'ils ont préféré la gloire des hommes. Bien-aimés, vous vous imaginez votre fils qui était aveugle de naissance, qui était mendiant. Jésus le guérit. Maintenant, tu ne peux plus défendre ce Jésus-là. Parce que tu as peur des hommes. Parce qu'ils avaient peur qu'on les bannisse de la synagogue. Bien-aimés, qu'est-ce que la synagogue a fait pour leur enfant? Rien. Jésus vient et guérit l'enfant. Et tu as peur. Et beaucoup de gens ont peur d'afficher leur position. Parce qu'ils ne veulent pas être bannis de la société. Ils ne veulent pas être déconsidérés par les amis, par les copains. Bien-aimés, par la femme ou le mari. Non, bien-aimés, Jésus nous prévient. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il faut s'habituer à cela. Il faut accepter cette vie-là. Il n'y a pas que les humains. Il y a le fait que le péché soit dans le monde, ça rend ce monde un monde de difficultés. Je crois que parmi les gens qui ont subi Fukushima, il y a des chrétiens sûrement. Mais ils ont vécu la folie des humains. Ça leur rappelle que, tout simplement, ils sont encore sur la terre où il y a la folie des humains, il y a la bêtise des humains, qui ne sont pas encore au paradis, qui devaient toujours garder le regard fixé sur le ciel. Donc, il y a les deux choses. Il y a les humains qui seront comme un obstacle pour les vrais chrétiens, mais il y a aussi le fait que le monde soit un monde de péché qui est aussi un obstacle qui asphyxie les chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont dans les voitures, ils voient des panneaux avec des personnes dénudées. Il y a toutes sortes de pressions en marchant dans les rues. Il y a des injustices qu'on voit dans les infos. Parfois, ces injustices nous donnent une telle colère qu'on a envie de prendre, nous aussi, les armes. Quand on voit un monsieur qui tue 4 enfants, adultes, des enfants qui avaient déjà grandi, ce n'est même pas des bébés, des enfants qui ont grandi, et qui tue sa femme, et qui disparaît dans la nature, on se pose la question, pourquoi il peut faire un tel acte? Sans compter que le dernier enfant, il l'a tué après avoir dîné avec lui. Bien-aimé, c'est des choses qui révoltent, et qui nous poussent à vouloir agir aussi, nous, humainement. Mais on se dit, non, le Seigneur nous a prévenus que ce n'est pas beaucoup de tribulations. Les tribulations, ce n'est pas seulement ce que les hommes vont te faire, mais c'est ce que tu subis par l'atmosphère terrestre. Tout ce qui s'y passe, c'est des tribulations, c'est des choses qui déstabilisent, c'est des choses qui donnent la colère, c'est des choses parfois qui peuvent décourager, mais ça fait partie de toutes ces tribulations que nous devons vivre avant d'entrer au ciel. Le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Comprenons cela, il y a des faux prophètes déguisés en brebis, mais c'est des loups. Comprenons cela. L'apôtre Paul le dit encore dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Il dit, moi je m'en vais, mais à mon départ, il y a des gens, des loups qui vont se manifester du milieu de vous. Il le dit. C'est une réalité. Et lorsque beaucoup de gens sont face à cela, ils veulent nier la réalité. En disant, mais non, mais le frère était gentil. Mais oui, mais là, il manifeste son vrai caractère. Ah, mais la sœur, mais là, elle manifeste. Maintenant qu'elle manifeste un caractère, tu veux nier ce que tu vois parce que tu veux t'agrémenter d'une sorte de paradis ici sur terre. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil. C'est faux, ce n'est pas biblique. La Bible est claire qu'il y a des loups. Et la Bible va plus loin en disant qu'il y en a qui sont déguisés en brebis. Et nous devons réaliser cela, que nous sommes dans la guerre. Nous sommes en guerre et nous sommes confrontés à l'adversité et que nous devons marcher dans cette logique-là. Il y a l'adversité. Au moins, en marchant dans cette logique, nous pouvons intercéder pour ces gens-là, prier pour que Dieu les touche, pour que Dieu les change. Mais si on ne les reconnaît pas qu'ils sont des loups, si on ne reconnaît pas qu'ils ont un problème, comment on peut prier pour eux? On ne peut même plus prier. Il faut accepter l'évidence. Accepter que la masse neutre peut se transformer en danger et prier pour cette masse qui semble neutre. Jésus l'a vécu. Pourquoi les gens entrent dans l'œcuménisme? Parce qu'ils se disent, ah, mais quand même, il faut aimer tout le monde. Mais oui, mais aimer tout le monde, ça ne veut pas dire négocier avec la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Seule la vérité sauve. 2 Corinthiens 6, 14 nous prévient. Il dit, on ne doit pas faire des attelages disparates avec les gens qui ne sont pas dans la parole de Dieu. C'est dangereux. Et on se dit, non, bon, les gens sont... C'est un ami. C'est une amie. Et on fait la communion fraternelle, on fait des alliances. Bien-aimés, ne cherchons pas à changer la parole de Dieu. Le Seigneur nous prévient. Bien-aimés, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous sommes combattus de part en part. Jésus le dit lui-même, que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Parce que la vérité va créer des conflits. Il faut accepter les conflits créés par la vérité. Il ne faut pas chercher à les fuir en créant de nouvelles théories. Jésus a dit, dans une même famille, il y aura division. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Parce que la vérité va faire une différence. L'homme ne peut pas accepter la vérité parce qu'en lui, il y a le mal. C'est écrit dans 1 Corinthiens 2 que les choses spirituelles, l'homme animal ne les accepte pas, ne les comprend même pas. Donc, croire qu'on peut collaborer avec l'homme animal, c'est une grosse erreur. Croire qu'on peut collaborer réellement avec le chrétien charnel, c'est une grosse erreur parce que le chrétien charnel, quoi qu'il ait accepté Jésus comme sauveur, il a un comportement, il a des visées, il a parfois des objectifs animaux, des objectifs de l'homme charnel, naturel. Nous devons faire attention à tout ça, faire la part des choses et nous maintenir dans la vérité tout en acceptant l'adversité. Notre prédication, c'est marcher dans l'adversité. C'est une réalité. Ne la fouillons pas en galvaudant, en dévoyant la parole de Dieu. Restons fermes dans la vérité, même s'il faut s'attirer tous les ennuis du monde. Seule la vérité sauve, seule la vérité démontre qu'on est de Dieu. Le Seigneur nous a prévenus, bien-aimés. Pourquoi le Seigneur ne ferait-il pas une zone où il n'y aura que les bons mais bon, à quoi ça va servir? D'ailleurs, lui-même, il a dit, une lampe, à quoi ça sert qu'on la mette sous la table? Le sel, à quoi ça sert qu'on le mette pas dans la nourriture? Le sel sert à être mis là où il y a des complications. Donc, même si le Seigneur dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu de loups, mais il veut que certains loups qui sont apparents, je ne parle pas des faux, ceux qui portent des peaux de brebis, je parle des loups apparents, il veut les transformer. Il veut les sauver. Et il nous place comme du sel dans la nourriture. Il ne peut pas créer une zone où on n'est que nous. À quoi ça servirait? Lui, il veut sauver toute l'humanité. Et Dieu permet qu'on soit comme des brebis au milieu de loups. Une des raisons, c'est qu'il veut notre perfectionnement. Dans l'adversité, nous sommes beaucoup plus attirés vers Dieu. Nous tournons le regard beaucoup plus vers Dieu et ça nous permet de voir nos erreurs et ça permet que Dieu nous guérisse et nous perfectionne. C'est ça le but des épreuves. Créer une patience et cette patience va créer la perfection. Jacques en parle dans Jacques au chapitre 1er. Il explique tout ça. Nous devons accepter cette adversité, comprendre que nous y sommes parce qu'il faut notre perfectionnement. Aujourd'hui, si nous nous retrouvions dans des conditions idéales pour être en paix, tranquille, riche, fort, beau, qu'est-ce qui se passe en général? On finit par se considérer comme Dieu. Et on ne cherche plus Dieu. Qu'est-ce qui se passe en général? On cherche à protéger ce que nous avons comme richesse, comme beauté, comme force, comme avantage dans la société. Et ça nous transforme en ogre, ça nous transforme en dictateur, ça nous transforme parfois en voleur, en menteur, parce qu'on veut conserver les avantages acquis. C'est pourquoi Dieu permet que l'adversité nous atteigne afin que nous soyons attentifs à lui. Nous soyons attentifs à des choses beaucoup plus importantes, aux choses du ciel, aux choses d'en haut, puisque la terre va passer, bien-aimés. Le Seigneur permet l'adversité parce que le Seigneur veut montrer qu'il est Dieu. Vous savez, même un proverbe du monde dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » Quand tu gagnes sans difficulté, vous êtes dans une équipe de 11 joueurs et dès la 10e minute du match, l'équipe adverse, 3 joueurs de l'équipe adverse reçoivent 3 cartons rouges. Vous vous retrouvez à 11 contre 8. Mais quand vous allez gagner, est-ce que tu seras vraiment content? Tu ne seras pas content. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de péril. Il n'y a pas eu vraiment d'adversaire solide. Mais quand tu bats un adversaire solide, ta gloire est plus grande. Et le Seigneur veut manifester sa gloire à travers l'adversité. Donc, en nous parachutant dans les camps adverses et en ressortant vainqueur, Dieu montre qu'on est grand à travers lui. Il montre qu'il est grand lui-même. Et notre gloire est plus grande. Vous savez, lisez la Bible, c'est toujours comme ça. Gédéon a été envoyé dans les camps adverses. Mais avec 300 hommes, avec une cruche et une lampe. Et lorsqu'il a été vainqueur, Dieu a été glorifié. Parce que la victoire a été éclatante. Parce qu'il a été parachuté dans les camps adverses. Le Seigneur veut vaincre dans l'adversité afin qu'il soit reconnu comme Dieu. Bien-aimé, c'est trop facile. Comme on voit là nos présidents de l'Occident, les Obama, les Sarkozy, ils sont dans leur bureau et puis on leur donne un micro. Allez, Kadhafi, sors de là. Bon, ils sont tranquilles dans leur bureau, mais ils n'ont qu'à prendre eux aussi, se faire généraux et aller combattre. Vous allez voir, ils n'auront pas le courage. Ils sont là, il y a des journalistes qui viennent là en conférence de presse, Obama qui sort, allez, on ne veut plus voir Kadhafi. Oui, mais va toi aussi te battre. Ça, c'est trop facile. Mais ce que Dieu a fait de nous, il a fait de nous des vrais guerriers, parachutés dans les camps adverses. Et nous ressortons vainqueurs. Et la gloire est plus grande. Amen. C'est cela, bien-aimé. Aujourd'hui, les présidents sont reconnus grands à travers leur beauté ou leur costume. Mais autrefois, les rois, ils allaient aussi se battre. Quand on disait Guillaume le conquérant, il n'était pas au salon pendant qu'il y avait la guerre. Bien-aimés, les rois d'autrefois, ils allaient se battre. Aujourd'hui, les présidents sont là, ils demandent au ministre de la Défense comment ça se passe, les missiles là-bas. Pendant qu'il lui, il mange, bien-aimés. Il n'y a pas de gloire. Mais nous, nous sommes des véritables combattants, des guerriers, parachutés dans les camps adverses, entourés de miliciens, mais plus que vainqueurs. Puisque Paul a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui nous a aimés. Acceptons ce genre de vie-là. Une vie de risque. Parachutés dans les camps adverses. Mais tu sais que Dieu est avec toi. Il va glorifier son nom. Une autre raison, c'est que Dieu nous a créés de nouveau pour que nous marchions par la foi et non pas par la vue. Donc Dieu nous mettra dans des conditions pour que la foi soit exercée. Or, les seules conditions qui font exercer la foi, c'est des conditions où nous sommes dans une position d'infériorité, de faiblesse. C'est là qu'en mettant foi en Dieu, notre foi est exercée. Mais si on se trouve en position de puissance, il n'y aura pas la foi, bien-aimé. Quelqu'un qui a des millions dans son compte bancaire, peut-il avoir foi que Dieu lui donnera des chaussures? Non. Il sortira l'argent, il achète des chaussures. Mais quelqu'un qui n'a rien, il va dire, Seigneur, je crois que dans une semaine, tu me donneras les chaussures. Parce qu'il n'a rien, il met foi en Dieu et dans une semaine, les chaussures viennent. Et il est plus heureux que celui qui a beaucoup, beaucoup, il sort. Voilà. Il ne voit même pas la valeur des choses. Alors que lui, il a vu que c'est Dieu qui a fait le miracle. Dieu nous mettra dans des situations de ce genre-là, où il y a l'instabilité, où il y a l'adversité, afin que notre foi soit manifestée. Et quand notre foi est manifestée, sa gloire à lui est manifestée. Amen. Et nous sommes vraiment nous sommes vus réellement comme des gens du ciel parce que la gloire de Dieu se manifeste à travers la foi. Or, sans la foi, on ne peut pas plaire au Seigneur. Acceptons de vivre cette vie-là de foi. Acceptons cela. Et quelqu'un dira maintenant, que faire ? Que faire, bien-aimé ? C'est commencer à vivre dans l'humilité et la soumission à la parole de Dieu. Ne pas chercher à imposer à Dieu une façon de faire. Vous savez, il y a eu des gens bien intentionnés avant nous. Beaucoup. Vous savez, les gens qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays, c'était des gens qui étaient bien intentionnés, ils voulaient la liberté de leur pays. Mais certains n'ont pas été soumis comme Jésus. Jésus voulait la liberté des hommes. Jésus pouvait, étant vivant, commencer à tuer les dictateurs, tuer les méchants. Il avait la puissance pour le faire. Mais il savait que ce n'était pas comme ça qu'il libérait réellement les hommes. Parce qu'il savait que le vrai problème de l'humain, c'était le péché. Donc il a été patient, soumis, et Dieu lui a montré la voie la meilleure pour libérer les hommes, c'était sa propre mort. Et il a accepté. Mais beaucoup de leaders d'indépendance ou autres, ils n'ont pas accepté de croire en Dieu pour que Dieu libère leur peuple. Ils ont préféré aller acheter des armes pour libérer leur peuple. Ça a fini à quoi ? À une dépendance auprès des gens qui ont les armes. Or, ces gens-là, ce sont les mêmes ennemis du peuple. Ils ne peuvent pas t'aider à libérer le peuple. C'est ainsi qu'ils se retrouvent toujours morts. Les Lumumba, tous ces gens-là, ils sont morts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cru que c'est auprès des ennemis du peuple qu'ils allaient trouver la solution, au lieu de s'humilier et d'accepter la voix de Dieu. Qui d'autre a fait une erreur comme ça dans la Bible ? C'est Moïse. Moïse, il voulait libérer le peuple. Mais il a laissé cours à sa colère. Il a tué l'Égyptien. Mais tu tues l'Égyptien, tu te retrouves seul contre toute une armée. Qu'est-ce que tu peux faire ? Il a fui. Il a compris qu'il ne pouvait pas libérer le peuple par les armes. Donc il a fui. Il s'est humilié. Vous vous imaginez, Moïse a attendu 40 ans pour retourner. Mais il ne savait même pas qu'il allait retourner. Vous vous imaginez chaque jour que Moïse vivait, comment il pleurait par rapport à son peuple. Parce que quand tu tues quelqu'un pour sauver un des gens de ton peuple, tu aimes beaucoup ton peuple. Tu as en toi l'âme du prince du peuple. Moïse a fait déjà ça. Il a fait déjà le cœur du libérateur de son peuple. Mais il a voulu le faire physiquement, ça n'a pas marché. Vous imaginez 40 ans à penser que son peuple souffre en Égypte. Comment il a passé ces 40 ans-là ? Ça n'a pas été facile. Il devait parfois entendre des mauvaises nouvelles. Il devait dire, mais où est Dieu ? Mais il n'a pas voulu y retourner et chercher, créer des rébellions avec une bande armée. Il a attendu. Sûrement, il a dû crier à Dieu. Et un jour, Dieu est intervenu. Bien-aimé, ce n'est pas facile de faire comme Moïse, 40 ans. Pourtant, c'est ce que Dieu attend de nous, que nous ne puissions pas chercher les moyens de la chair pour libérer les autres. Parce qu'on voit beaucoup d'injustices, on voit beaucoup de choses. On aimerait devenir président et changer tout ça. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens vont se livrer rapidement à la politique parce qu'ils se disent, il faut rapidement que j'aille un poste, que comme ça je change les choses. Non. Il faut être soumis, humble, dire « Seigneur, regarde comment le pays se détruit. Qu'est-ce que je fais ? Tu m'attends dans quoi ? Le Seigneur va te conduire. » Soyons humbles. L'humilité va faire que nous attendrons le Seigneur et va faire qu'on serait soumis à ce que Dieu va nous dire. Mais l'orgueil va nous dire ceci, « Frère, ce que tu recherches là, c'est la libération de ton peuple. Tu recherches à ce que ton peuple mange bien. Allez, va vite dans la politique. Va faire telle alliance. Voilà. Tu as droit à cela parce que ce que tu veux est bien. C'est faux, bien-aimé. Jésus voulait la libération de son peuple, le salut de son peuple, mais il n'a pas touché au système du monde. Il a été soumis à Dieu, que Dieu lui-même agisse. Bien aimé, autrefois, moi je faisais partie des gens qui ont voulu lutter par la politique. Quand on voit les injustices de la terre, j'étais toujours contre les dictateurs. Quand j'arrive dans un pays, je deviens opposant du dictateur. comme dans presque tous les pays du monde, il y a des dictateurs, même là où ça n'y paraît pas. Dès que j'arrive dans un pays, je me mets dans le camp de ceux qui combattent celui qui est au pouvoir. Mais à un certain moment, j'ai assisté à des réunions d'un parti politique. J'ai compris que les gens qui m'entouraient, ils cherchaient à prendre le pouvoir pour eux aussi mettre l'argent dans leur poche. J'ai dit qu'avec ma logique, on risquait de me tuer par empoisonnement. Parce qu'on n'avait pas le même objectif. Et j'ai compris que finalement, vers qui on allait dans ce parti politique-là pour atteindre nos objectifs, on allait vers les mêmes personnes qui soutenaient les dictateurs que nous, on voulait enlever. C'est eux qui les soutenaient. Donc nous, on n'avait pas d'autre choix que d'aller vers eux. Mais finalement, c'est eux qui vont décider. J'ai compris que seul Dieu était grand pour libérer un peuple. Je me suis arrêté là. Je me suis humilié. J'ai dit, je vais changer la mentalité des gens. La vérité fera que les gens seront libérés. Le salut fera que les gens vivent dans la vraie liberté. Parce que la liberté des humains n'est pas la vraie liberté. C'est ça, bien-aimé. On a voulu tous faire comme Moïse, mais on a compris que l'homme était petit. Dieu seul est grand. Et lui seul a la solution. Donc, humilité, bien-aimé, et soumission dans les moyens que Dieu propose lui-même. Que faire encore, bien-aimé ? La patience. La patience. Le chemin du Seigneur demande beaucoup, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Vous savez, dans les débuts de la vie chrétienne, nous avons lutté pour avoir de l'amour dans le cœur, pour manifester l'amour. Et nous avons lutté pour d'autres fruits encore, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. On a lutté pour tout ça. Mais dans mon expérience de serviteur de Dieu, j'ai beaucoup prié pour la patience. Parce que Dieu a sa façon d'agir. Pendant qu'il agit, nous, on veut que les choses aillent vite. Nous, on ne veut pas marcher à la logique, selon le rythme de Dieu. Et un serviteur de Dieu va être confronté à la patience. C'est pourquoi j'aime le psaume 40, quand David dit « J'ai attendu patiemment le Seigneur ». Oui, le serviteur de Dieu n'est peut-être délivré que par Dieu lui-même, ne peut être soutenu que par Dieu lui-même. Il ne peut pas le faire par ses efforts parce qu'il va échouer. Mais comme ce n'est plus lui qui agit, c'est quelqu'un d'autre qui agit, il est obligé d'attendre de voir l'action de ce quelqu'un d'autre. Et ça demande la patience. Beaucoup de patience. Vous savez, pendant 30 ans, Jésus a été patient. C'est très long, 30 ans, pour quelqu'un qui connaissait déjà tout, qui avait la puissance, qui était fils de Dieu. Attendre 30 ans pour agir, c'est trop, bien-aimé. On a fait un voyage pour faire un concert. Le retour, ça nous a pris 10 heures. Bien-aimé, comme on avait une remorque, je devais rouler à 90, là où les gens roulaient à 130. Bien-aimé, j'ai eu envie de mourir tout simplement. Voir qu'on me dépassait, chop, chop, et 90, je suis là. Et quand tu veux augmenter la vitesse, tu sens que la remorque fait bouger la voiture. À un moment, j'ai dit, mais non, il reste encore 6 heures de route. J'ai eu envie qu'on se casse quelque part, que les ambulances viennent nous chercher, quoi, c'est tout. Parce que 90, tu es là, 95, ça devient ta grande vitesse. Je dis, mais Seigneur, je vais devenir fou là. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, patience. Vaut mieux être humble, soumis, et souffrir, et voir la gloire plus tard. J'ai dit, d'accord. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Quand tu veux servir Dieu dans la vérité, tu vois que les faux semblent prospérer. Beaucoup de serviteurs en ont souffert. Psaume 73, c'est l'exemple d'un serviteur qui en a souffert. Asaph. Il est dans la vérité, mais il trouve que les faux prospèrent. Il dit, mais Seigneur, comment les faux prospèrent alors que moi je suis dans la vérité? Embêté. Et en ce moment-là, il faut la patience. Et c'est pas grave. Et le Seigneur m'a donné une révélation récemment. Il a dit, la vérité, c'est comme une femme enceinte. tôt ou tard, elle va accoucher. Pendant qu'elle est enceinte, les gens vont dire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas le fils de son mari. Il n'est pas, il est noir, il est jaune. Les gens vont raconter le bébé, sur le bébé tout ce qu'ils veulent. La vérité se saura le jour de l'accouchement. Et l'accouchement viendra un jour. 9 mois passent. Depuis, ça m'a calmé. J'ai dit, bon, d'accord. Pour chaque chose, pour chaque polémique, pour chaque contestation, pour chaque opposition, nous nous disons, c'est comme une femme enceinte. La vérité finira par sortir. C'est ce que Jésus dit aux disciples dans Matthieu 10, que l'on vient de lire. Il dit, je vous défendrai. Mais il finit en disant, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Tout ce qui est caché sera dévoilé. C'est ça la patience des saints. On se dit, bon, subissons pour un temps là l'opprobre, la honte, comme Jésus. Les gens ont craché sur lui. Mais il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même? Ils ont parlé. Il portait sa croix. Il s'en allait. Mais quand il a crié, Tetelestai, tout est accompli. C'est fait. Il est mort. Il y a eu tremblement de terre. Le ciel s'est obscurci. Le centenier romain a dit, celui-ci était réellement le Fils de Dieu. Bien-aimé, quand je pense à des parents dont les enfants sont rebelles, qui ne veulent pas suivre Dieu, mon cœur est déchiré. Moi, je me dis une chose. Je dis toujours à mes enfants, ce que nous mangeons, c'est Jésus qui me donne. Maintenant, si un enfant ne veut pas suivre celui qui me donne la nourriture que moi je lui donne, mon cœur est déchiré. Quand je vois des enfants qui ne veulent pas suivre le Dieu qui donne la nourriture à leurs parents et les parents leur donnent, je dis, mais quelle ingratitude! Je suis déstabilisé. Je passe du temps à prier pour ce genre de cas. Je dis, mais non! Comment moi, je te donne, mais c'est Dieu qui me donne? Comment tu peux refuser mon Dieu? Je dis, non! Ça fait mal. Ça fait partie de l'adversité que nous vivons sur terre. Il est écrit que les enfants seront ingrats. C'est vraiment l'ingratitude. Ingrats. Et ça fait très mal. Mais nous demandons à Dieu la patience. Seigneur, agis, fais-leur comprendre. Il a été patient envers nous. Nous lui demandons d'être patient aussi. Et entre-temps, pendant que notre cœur est déchiré, nous disons, Seigneur, donne-nous la patience. C'est important la patience pour marcher dans l'adversité. Imaginez les chrétiens chinois. 30 ans, bien aimé, 30 ans c'est beaucoup. Des gens comme le Watchman Nee, qui ont fait plus de 20 ans en prison, il est mort en prison. Le Alan Yuan, 22 ans en prison à cause du nom de Jésus. Et quand il sort, il trouve tous ses enfants qu'il avait laissés petits mariés. Mais il était content. Il a obéi à son maître. Comme c'est beau, et les gens quittaient les États-Unis, la France, le monde entier pour aller voir Alan Yuan. Parce que tout le monde veut honorer ce que Dieu a fait à travers lui. Tout le monde voulait honorer. La maison d'Alan Yuan est devenue un monument pour les chrétiens du monde entier. 22 ans. Un vrai grand frère. Tous les chrétiens allaient pour dire merci. Parce qu'à partir de ton exemple, nous pouvons tenir bon aussi. Bien-aimés, nous avons besoin de patience. Ne cherchons pas à agir par la chair. Soyons patients. Parfois, il y aura un moment où tout sera noir pour nous. Et les gens diront comme pour Jésus, Dieu l'a abandonné. C'est ce qui est écrit dans Isaïe 53. Les gens disaient, Dieu l'a lâché, Dieu l'a puni. Mais tant qu'on sait que ce qu'on fait, c'est dans la Bible, c'est la vérité, tenons bon, bien-aimés. Et soyons patients. Il est écrit dans un passage biblique, tu verras la rétribution des méchants. Soyons patients. Maintenons-nous dans la vérité. La patience, c'est ce dont nous avons besoin maintenant. La patience. Attendre que Dieu fasse. Attendre sans s'irriter. On attend. On dit, tout est sous contrôle. On ne voit pas encore, mais Dieu va montrer. Que faire, bien-aimé? Accepter, comme je l'ai dit précédemment, de vivre par la foi. Ne pas chercher à imposer à Dieu la façon de faire. Le Seigneur a dit, il faut croire. Nous croyons. Et il dit, tu verras ma gloire. Et nous verrons sa gloire. Il y en a qui ne veulent plus vivre par la foi. Ils veulent vivre par la domination humaine. Et j'en arrive donc au dernier point, là, à l'avant-dernier point. C'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut faire attention à quoi? Il faut faire attention à faire des compromis pour être tranquille dans ce monde. Il y a beaucoup de gens qui font des compromis pour être tranquilles. Des compromis avec les parents, des compromis avec les enfants, des compromis avec des amis, des compromis avec des cousins, des compromis avec des cousines, des compromis avec leur chef au travail. Beaucoup font des compromis avec leur mari, leur femme. Comme ça, ils sont tranquilles, bien-aimés. Ça va nous perdre. D'ailleurs, c'est ce que le monde attend. À travers la pression, nous faire craquer. Vous savez, quand nous, on était païens, quelle pression on ne mettait pas aux jeunes qui étaient chrétiens. On leur donnait des surnoms. Il y a même un qui jeûnait quand on était à l'internat. On a créé des histoires sur lui. Comme quoi, il jeûne tellement qu'on peut compter maintenant ce nombre de cheveux. Que ses cheveux se cassent. Et qu'un jour, il a fait comme ça, les cheveux sont partis, bien aimés. On a tout fait pour que ces garçons-là ne soient pas chrétiens. Parce qu'ils nous embêtaient. Son comportement était tellement pur que nous, on était dérangés. Les gens qui voulaient s'engager avec Dieu, on les appelait les gaillards zéro. C'est ça les gens du monde. C'est ça l'adversité. Et les membres de famille vont mettre la pression. Quand toi, un membre de famille va te visiter, que tu mets quelque chose à la... Tu zappes parce que tu as vu quelque chose à la télé qui n'est pas bon. Ah, vous exagérez. Mais non. Sois ferme avec la vérité. Préserve tes enfants. Il y en a qui envoient leurs enfants parfois chez des membres de famille alors qu'ils savent que là-bas, on ne respecte pas la parole, donc ils vont leur montrer n'importe quoi, ils vont leur faire n'importe quoi, mais ils envoient quand même parce que c'est mon frère, c'est ma cousine, c'est ma... Non, bien-aimé, protège les enfants, protège les serviteurs de Dieu que Dieu t'a confiés à élever. On ne blague pas avec ces choses-là. Dieu t'a donné ces enfants-là pour qu'ils le servent, non pas pour que ce soit tes enfants seulement. Soyons fermes dans la vérité. Et acceptons l'adversité qui est la conséquence de tout cela. Pas de compromis, bien-aimés, pour avoir la tranquillité dans ce monde. Il y en a qui font des compromis. Ah oui, mais l'ami va croire que je l'ai délaissé. Mais bien-aimés, Jésus dit clairement qu'il faut choisir. Il faut choisir. Si quelqu'un choisit le mal ou bien l'hérésie ou l'erreur, on ne peut pas être solidaire de cette erreur-là. Beaucoup risquent de rater leur salut, comme les gens qui ont crucifié Jésus, le peuple qui disait « crucifie-le ». Beaucoup de gens qui disaient « crucifie-le » ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Mais ils suivaient les pharisiens. Ils voulaient être en paix avec les pharisiens parce que c'est eux qui contrôlaient les juifs. Et beaucoup, pour être en paix avec les gens, ils font des compromis. Bien-aimés, c'est ce que les démons veulent. Hier, on a fait une délivrance. Et un esprit mauvais disait, vous refusez la facilité. Voilà. Ils savent que c'est eux-mêmes qui nous poussent à vouloir aller dans la facilité. Comme ça, quand on va dans la facilité, c'est fini, la corruption vient. On peut faire des bêtises en disant, mais non, l'amour, mais non, c'est un ami, mais non, c'est une amie, mais non, c'est un cousin, mais non, mais bien, bien, non, non, pas de compromis, parce que tu vas te perdre. Tu ne peux pas te perdre puisque l'autre se perd. Mais non, c'est mon papa, mais non, bien-aimé. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le salut est individuel. Qu'est-ce qu'il nous faut éviter, bien-aimé? Chercher la domination par les moyens humains. Il y a une race de chrétiens aujourd'hui qui a décidé de conquérir le monde, de produire des politiciens, de produire des grands chefs d'entreprise pour conquérir le monde et imposer la culture de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas biblique. Le Seigneur nous dit que nous sommes de passage sur la terre. Il nous demande de sauver les gens, de sauver les humains, de les amener au ciel et non pas de créer une bonne terre. Il ne nous dit pas cela. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si toi tu es chrétien, tu es conduit par Dieu à devenir maire d'une ville, il ne faut pas arranger la ville. Non, tu arranges la ville, mais tu ne l'arranges pas pour qu'elle reste éternelle. Tu l'arranges parce que tu es le maire, tu dois faire ton travail. Mais être dans une idée comme quoi on va arriver à un stade où il y a des chrétiens partout dans les grands postes et comme ça, on contrôle la terre, comme ça on va vivre à l'aise, c'est faux, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit au contraire que plus le temps va passer, plus l'amour des gens pour Dieu va se refroidir et on va se retrouver dans des situations très difficiles. Au lieu de chercher à conquérir le monde, cherchons plutôt à nous armer pour ces situations-là, par rapport à ces situations-là. Cherchons plutôt à sauver le maximum. Soyons dans le feu de l'évangélisation, le feu du salut, et non pas dans une logique de construction du monde par les moyens humains, de domination humaine. On crée des partis politiques chrétiens parce qu'on veut dominer le monde. Comme ça, on sera tranquille. C'est faux, bien-aimé. On ne dominera jamais le monde parce que Dieu n'a pas prévu ainsi. Jésus a dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Mon royaume n'est pas de ce monde. Son royaume est spirituel et céleste. Mais il est au-dessus quand même du royaume de ce monde. Mais il n'est pas de ce monde. Ne tombons pas dans cette tentation de croire que les moyens matériels nous donneront le dessus sur les païens et pour imposer la culture de Dieu. Non, c'est toujours la foi en Dieu qui va faire la différence. C'est toujours l'Esprit de Dieu qui va faire la différence. Et ça demande à nous de marcher dans cette logique-là, spirituelle, une logique de foi en Dieu. Et quand Dieu ouvre une porte pour qu'on ait un grand poste, on prend ce poste et on fonctionne spirituellement pour que ce poste marche bien et que les gens soient bénis, disent que c'est un bon administrateur, c'est un bon PDG, mais s'il est bon, c'est parce qu'il est dans la vérité. Et s'il est dans la vérité, c'est Christ qui l'a mis cette vérité en lui. Non pas vouloir changer le monde, que le monde devienne paradis, c'est faux. Le monde sera détruit un jour parce que le mal il dominera. Nous, on doit faire ce qu'on doit faire dans le moment actuel où on est vivant, sans croire qu'on peut dominer à long terme le monde entier. Non, on fait ce qui est bien dans ta maison, dans ta ville, dans ton travail. Tu fais ce qui est bien, mais tout en comptant sur l'Esprit de Dieu pour toucher les cœurs, pour les sauver. Et non pas vouloir construire quelque chose qui fasse que le monde devienne paradis. C'est faux. Ça, c'est la tentation de la domination par la chair. Refusons cela. Revenons à la simplicité de l'évangile. Paul n'a jamais cherché cela. Pierre n'a jamais cherché cela. Bien-aimé, je clôture en disant ceci. Jésus est notre modèle. Il vient de le dire dans Matthieu 10. Il dit, si tu es déjà traité comme le maître, c'est bien. Mais Jésus, comment il a été traité? Premièrement, à la naissance, on a refusé. Il n'y avait pas de place à l'auberge. Sa mère a dû accoucher dans une étable. Et Jésus a été posé sur une mangeoire, rejeté par les humains, accueilli par les animaux. Naissance, hein? Il n'a rien fait, rien que bébé. À l'âge de 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu le tuer par Hérode, à tel point qu'Hérode a tué tous les enfants de cet âge-là. Et Jésus a fui où? En Égypte. Rejeté déjà à la naissance. Déjà à la naissance. Quand il commence le ministère, incompris par qui? Par sa propre famille. On l'a traité de fou. Incompris par qui? Par les pharisiens qui étaient censés le comprendre. rejeté par tous les réjugés de l'époque. Jésus-Christ, tout le temps contesté. La pression chaque jour par les pharisiens pour le piéger. Tout le temps. Bien-aimé. Il a vécu tout le temps comme ça. Il s'est écrit que c'était un homme de douleur. Jésus-Christ, incompris par qui? Par les humains à qui il prêchait. Un jour, une femme a dit à Jésus, « Heureuse, les mamelles qui t'ont allaité. » Jésus dit, « Non, ça c'est le système de l'homme. Tu veux me vanter, moi ?» Jésus a dit, « Heureux plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Bien-aimé, ça fait mal. Quand toi, tu veux passer un message, les gens saisissent autre chose. Toi, tu veux que les gens croient en la parole et soient sauvés, la femme fait ta publicité. Non, Jésus dit non. Le problème, ce n'est pas faire ma pub, c'est croire et mettre en pratique. Ça fait mal. Jésus-Christ, rejeté par la foule que lui-même a aidée. Ils ont préféré Barabbas. Injurié Jésus. Il a vécu tout cela. Ne nous attendons pas à autre chose. Bien-aimés, ne nous attendons pas à autre chose. Si on est vraiment de Dieu, nous passerons par les mêmes choses que Jésus. Et je vais lire quelques passages pour clôturer où Paul parle. 2 Corinthiens 6 d'abord. Qu'est-ce qu'il dit Paul dans 2 Corinthiens 6? C'est là que nous allons retrouver encore la patience. Verset 4. « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations. » Par beaucoup de patience. Les tribulations sont là et on veut agir par la chair pour mettre fin à ces tribulations. Quand on entend qu'on nous a critiqués et on a l'envie de critiquer aussi pour équilibrer. Non. Et le Seigneur dit non, beaucoup de patience. Paul dit par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les rébellions, donc, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. C'est comme ça que nous nous rendons recommandables. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, tout ça, il a accepté. Étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu de Dieu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort. Donc même des gens comme Paul, ils ont été critiqués comme quoi Dieu les a châtiés. Oh, c'est faux. Et comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. 2 Corinthiens 11, Paul encore qui parle. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Donc Paul leur explique ceci, il dit, mais je vais parler le langage d'homme parce que vous ne semblez pas comprendre le langage spirituel. Parlons le langage d'homme. C'est pourquoi il parle de folie. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Paul dit, mais vous supportez les faux serviteurs. Vous vous prétendez sage, mais vous choisissez de supporter les faux serviteurs. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Donc Paul était tellement humble, gentil, qu'on le contestait. Et les gens préféraient les faux serviteurs qui dominaient, qui manipulaient les autres. Cependant, tout ce que que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Il dit que ça c'est charnel, c'est humain plutôt. Je le suis plus encore. Maintenant il explique tout ce qu'il a enduré. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups. Moins un, donc 39 coups. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai de leurs mains. Amen. Voilà le sort d'un serviteur de Dieu. Voilà. Je me souviens quand ma mère est morte, le Seigneur m'a donné Job 7.1. Le sort de l'homme sur la terre, c'est celui d'un mercenaire, d'un guerrier. Voilà. La terre est remplie de difficultés, de tribulations, des choses qu'on ne comprend pas. Ce qui fait encore davantage mal, c'est quand la masse, c'est-à-dire les chrétiens, les gens qui se disent chrétiens, soutiennent plutôt ce qui est faux au lieu de soutenir ce qui est vrai. Ils sont sans excuses pour les vrais serviteurs, mais ils sont pleins d'excuses pour les faux serviteurs. C'est ça qui fait mal. Paul a subi tout cela. Il a subi la contestation, lui qui a consacré toute sa vie aux chrétiens, aux églises. Parce que les gens n'aiment pas ce qui est pur et simple. Ils préfèrent ce qui est corrompu parce qu'ils se voient dedans. C'est ça la réalité, bien-aimés. Acceptons ce que Paul a vécu. Acceptons ce que Jésus a vécu. Et attendons la délivrance par le Seigneur. Réjouissons-nous maintenant de la faiblesse. C'est notre façon de vivre. Acceptons de vivre à travers la faiblesse. Ne cherchons pas à être costauds, à s'imposer chez les humains. Cherchons à être reconnus et acceptés par Dieu. Et considérés comme faibles, ratés par les humains. Mais continuons notre chemin. Un jour, la gloire du Seigneur apparaîtra. Les choses seront différentes. Quand les gens entendront de sa grande voix le Père nous dire « Entre dans la joie de ton maître », les gens nous envieront. Mais qu'est-ce que ça va changer à ce moment-là? Comme Jésus dit au jour des noces de l'agneau, c'est lui qui va nous apprêter la table, nous mettre la ceinture et nous faire asseoir comme des chefs. Ce jour-là sera le grand jour des réjouissances. Mais pour le moment, acceptons les difficultés de la terre. Dieu est grand, il ne nous oublie pas. Mais c'est sa façon qu'il a choisie pour nous faire fonctionner sur la terre, afin que la gloire lui revienne et que nous aussi nous soyons glorieux. Avec lui, au nom de Jésus, que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions de nous réapprendre, Seigneur, à marcher dans l'adversité. De nous réapprendre, Seigneur, que la terre est remplie de difficultés, Seigneur. Et que nous ne devons pas chercher à nous en sortir par la chair. Nous devons accepter de marcher par l'Esprit. Ô Seigneur de gloire, merci, Seigneur, de nous aider à supporter la contradiction, l'opposition, l'incompréhension, la diffamation. Aide-nous, Seigneur, à supporter le comportement égoïste de certains qui veulent se servir et non te servir, qui veulent se servir et non servir les autres. Ô Seigneur, aide-nous à faire comme Jésus, qui n'a pas maudit le peuple lorsque le peuple a choisi Barabbas. Ô Seigneur, quelle douleur il a dû subir de voir que le peuple choisissait Barabbas. Aide-nous à nous habituer au fait que les humains aient la mémoire courte, Seigneur. Que nous nous en habituions et que nous fassions le bien parce qu'on doit faire le bien et non pas parce qu'on attend la reconnaissance, Seigneur. Oh.